preuve. Les détectives ordonnèrent à la foule de reculer et commencèrent leur travail. Puisqu'il n'y avait aucune trace de sang sur l'herbe, les détectives jugèrent que la victime avait été assassinée ailleurs et amenée dans le terrain vague, une partie après l'autre. Sous le corps, on retrouva de la rosée, ce qui signifiait qu'elle avait été placée là après 2 heures du matin. La victime était affreusement défigurée. Un couteau avait creusé de profondes entailles aux deux coins de sa bouche, ce qui donnait au cadavre l'air d'un clown ricanant. Les traces de cordes qu'elle portait aux poignets et aux chevilles indiquaient qu'elle avait été attachée, peut-être même torturée. Les prises de mesure des deux parties du corps indiquèrent que la victime mesurait 1,70 m et pesait 52 kilos. Ses cheveux châtains avaient été récemment passés au henné et ses ongles avaient été rongés jusqu'au sang. Les détectives appelèrent l'officier de police judiciaire du comté de Los Angeles pour qu'il fasse évacuer le corps, puis s'attelèrent à une tâche difficile, identifier la victime. L'enquête. Dans les années 40, police et presse fonctionnaient en symbiose. Les journalistes obtenaient des scoops grâce aux policiers, et ceux-ci se servaient d'eux pour diffuser les informations dont ils espéraient qu'elles les aideraient à résoudre les crimes. Concernant l'affaire du Dahlia noir, les détectives fournirent les empreintes digitales relevées sur la victime au Los Angeles Examiner, et les journalistes utilisèrent leur sound photo, un précurseur du fax, pour en envoyer des agrandissements au quartier général du FBI à Washington. Les techniciens du FBI les comparèrent alors aux 104 millions d'empreintes figurant déjà dans leurs archives, pour découvrir qu'elles correspondaient à celles d'Elizabeth Short. Ces empreintes avaient été relevées à l'occasion d'un petit boulot dans une base militaire californienne, ainsi que lorsqu'elle avait été arrêtée à Santa Barbara pour consommation d'alcool en dessous de l'âge légal. Le FBI envoya également au journal la photographie que Short avait jointe à sa candidature. Lorsque les journalistes virent à quel point la victime était belle, ils surent que leur scoop ferait sensation. C'était un exemple parfait du style policier noir. Pour rendre l'histoire plus juteuse encore, les journalistes se livrèrent à un déshonorant stratagème. Ils téléphonèrent à la mère, Phoebe Short, pour lui dire que sa fille venait de remporter un concours de beauté. Après lui avoir extorqué un maximum d'informations sur la vie personnelle d'Elizabeth, ils lui annoncèrent que sa fille était morte. Sexe, beauté, violence, tous les ingrédients étaient là pour faire les gros titres dans tout le pays. Le Washington Post barra sa première page de ces mots. La police recherche le fou pervers qui a assassiné une jeune fille. Elizabeth Short incarnait l'idéal féminin des années 40. Jambes musclées, hanches larges et petit nez retroussé. Elle était un théâtre à elle toute seule. Elle teignait en noir corbeau ses cheveux châtains, peignait ses lèvres de rouge et ajoutait des fleurs blanches à sa coiffure. Son teint d'albâtre et ses yeux bleus la faisaient ressembler à une poupée de porcelaine. L'origine de son nom est incertaine. D'après certains, sa passion pour les vêtements noirs amenèrent ses amis à l'appeler le Dahlia noir en référence à un film de 1946, Le Dahlia bleu. Quelle qu'en soit l'origine, la presse relaya ce surnom, ce qui contribua à faire entrer Elizabeth Short dans la légende. Cependant, d'après son amie d'enfance et voisine Mary Passios, les habitants de la ville où elle avait grandi l'appelaient simplement Bette. Elle était née le 29 janvier 1924 à Hyde Park, dans le Massachusetts. Avec elle, ses parents, Phoebe et Cléo, comptaient 5 filles. Alors que Bette était encore enfant, la famille déménagea à une demi-heure de Medford. Cette ville avait été le cadre de la chevauchée de minuit de Paul Revere en 1775, et c'est là que la musique de Vive le vent avait été composée. Cléo Short monta une entreprise de construction de terrains de golf miniatures. Les affaires marchaient bien lorsque la crise de 1929 le ruina complètement. Incapable de subvenir aux besoins de sa famille nombreuse, Cléo abandonna sa voiture sur un pont pour faire croire que le désespoir l'avait conduit à sauter dans la rivière.